Chapitre 12e, le couloir à surprise. La bataille fut longue, acharnée, terrible. De part et d'autre, on se donnait des coups formidables. Maintenant, ce n'était plus seulement avec les poings qu'on se frappait, mais tout ce qui se trouvait dans le bureau servait de projectiles et d'armes. On s'était emparé des chaises, des casiers, des objets d'art, et on se les lançait mutuellement à la tête. Les bandits se servaient de casse-tête, évitant le revolver pour ne pas donner l'alarme au dehors. De graves blessures venaient d'être faites, le sang ruisselait, et les blessés se trouvaient des deux côtés assez gravement atteints. Et comme par enchantement, aussitôt, faisant cesser tous ces hurlements de douleur, un coup de sifflet retentit, modulé d'une certaine façon. Il ne resta plus en présence, dans ce bureau transformé en champ de bataille, que Martin Numa, Prosper, Philippe et deux de leurs agents. Quant aux employés de la banque, aux garçons de bureau et aux quelques clients singuliers qui se trouvaient dans la banque au moment où la bataille commença, qui avaient pris part au combat, ils avaient tous disparu. « Chef !» s'écria Prosper avec joie. « Enfin, nous vous avons retrouvés. Nous vous avons conquis encore une fois. Ah, ce n'est pas sans peine !» Martin Numa tendit les mains à Prosper et à Philippe. « Merci, mes amis, merci, c'est vous qui m'avez sauvé. Aujourd'hui, j'étais vraiment perdu. Une fois de plus, vous avez sauvé votre chef. Une fois de plus, je vous dois la vie. » Puis il ajouta, « Nous avons gagné la bataille. Ils ont pris la poudre d'escampette. Mais tâchons de tirer le plus tôt possible profit de la victoire. Avant votre arrivée, je m'étais emparé du chef, du roi des bandits. Il est à terre, sous le bureau, près de la croisée. » Martin Numa se retourna, revint à l'endroit où il avait traîné le banquier fortement ficelé. Mais à son grand étonnement, le tatoué avait disparu. Martin Numa alors, le premier moment de désappointement passé, s'écria en riant « J'aurais dû le prévoir !» Disparus aussi les hommes du tatoué, qui au cours de la bataille étaient tombés sur le tapis plus ou moins grièvement blessés. Les bandits, en se sauvant, n'avaient laissé aucun des leurs entre les mains de Martin Numa. Personne, rien qui puisse donner une indication, faire une révélation à la police sur la véritable trace, ou fournir une indication pouvant amener au résultat si longtemps cherché par elle. Martin Numa avait remporté la victoire, mais cette victoire demeurait vaine. C'était du temps perdu, des coups reçus et des blessures longues à guérir, qui retardaient encore la reprise de sa mission. Ces bandits ne se vantaient pas quand ils assuraient qu'ils étaient bien armés, bien outillés. Le tatoué ne faisait pas acte de forfanterie vaine en affirmant que ses lieutenants valaient Prosper et Philippe, que ces hommes étaient aussi forts que ceux de la fameuse brigade de Martin Numa. Ainsi donc, ce chef des bandits que Martin Numa, roi des détectives, croyait jouer, trompé sous son déguisement en M. Thomas, avait parfaitement reconnu son adversaire, se cachant sous cette enveloppe d'épais provinciale, de bonhomme naïf. Oui, en convint plus tard Martin Numa, qui se plaisait à rendre justice à ses adversaires. Oui, il m'a roulé, bel et bien roulé. Et il ajoutait, « Si je ne craignais de paraître orgueilleux, vaniteux, et de chercher une excuse à ma défaite, je dirais, cet homme est de première force. » Mais comme il disait cela, dans ses yeux brillait une lueur qui, à moi-même, simple auditeur, ami fidèle, causait une impression singulière. Je ne puis mieux la comparer qu'à la lueur que jette une épée nue, froide, mais terrible, toujours prête au combat, qui même au repos, garde l'éclair qu'elle lancera au plus fort de l'action. Et je me rendais compte ainsi de la formidable impression que ce regard d'acier devait produire chez les malfaiteurs, surtout quand, comme ici, ils avaient cru un moment vaincre cet homme admirable. Une dernière fois, Martin Numa regarda ce bureau tout à l'heure si coquet, si pimpant, et maintenant saccagé, mis au pillage, puis il dit « Il est clair que ces hommes ont engagé le combat non pas seulement pour se défendre contre vous, mes amis, mais surtout pour gagner le temps de reconquérir leur chef, de le reprendre, de le mettre à l'abri. » Il ajouta « Ces voleurs nous ont volés. » Puis il se mit à perquisitionner rapidement, à chercher parmi les dossiers écroulés et en désordre sur le bureau du banquier. Il ne trouva rien à sa convenance, car il ne prit rien. Machinalement, dans un mouvement d'habitude, il regarda à terre, cherchant encore. Il repoussa du pied quelques papiers qui s'amoncelaient sur le tapis. Quelque chose brilla, jeta un rayon jaune. Martin Numa se pencha pour mieux voir ce que cela pouvait bien être. Une plume de stylographe, un bouton de manchette, une épingle de cravate, un bijou quelconque. Il le ramassa vivement. « Ah, mes amis, s'écria-t-il, celle-là est amusante. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Qu'avez-vous trouvé ?» Martin Huma éleva la main. « Voyez, dit-il. Au deuxième doigt de sa main gauche brillait une grosse bague en or. « Celle du chef, dit-il, la bague du tatoué. » Nous nous rappelons que pendant les premières minutes de son entretien avec Martin Huma, peu après l'introduction du prétendu répétiteur de province, M. de Krabs tenait enfoncé ses mains dans les poches de son pantalon et qu'il avait ressorti sa main gauche sans l'anneau qu'elle portait avant cela. Il fallait admettre qu'au cours de la lutte avec Martin Huma, M. de Krabs, fort mal arrangé par le roi des détectives, avait eu son pantalon déchiré, arraché à cet endroit, et que par cette fente, sa bague avait roulé sur le tapis où elle venait d'être retrouvée. « Allons, allons, » dit Martin Huma, regardant le bijou à sa main. « Allons, nous n'avons pas si mal travaillé que ça. Cette bague seule a pour nous la plus grande valeur. » Puis, se tournant vers ses lieutenants, il dit « Bien, mes enfants, maintenant, allons-nous-en, partons, nous n'avons plus rien à faire ici. » Un agent qui se trouvait près de la porte voulut l'ouvrir, mais la porte était fermée. Elle résista à la pression. « Chef, dit l'agent, nous sommes prisonniers. »« Point, mon ami, fit Martin Huma, les portes fermées ne signifient pas pour nous que nous soyons en prison. D'ailleurs, est-elle bien fermée, cette porte ?» Il s'en approcha, la tâta, opéra sur elle une légère pression. « Oui, fermée, fit-il, mais tout de même très facile à ouvrir. » « Seulement, nous n'avons pas de temps à perdre à vouloir l'ouvrir. » Prosper et Philippe, depuis un moment, cherchaient le long des murs, dans les draperies. « Chef, dit Prosper, voilà une autre porte. Voilà par où les hommes ont pris la fuite. Je m'en doute bien, si nous passions par là. »« Oh, dit Martin Huma, comment, vous, Prosper, vous émettez une idée pareille. Mais, chef, comment, vous, si prudent, si avisé, vous voulez nous faire passer par où les malfaiteurs ont pris la fuite ?» Puisqu'ils ont pu passer par là, pourquoi nous ? Eux, oui, ils ont pu passer par là, mais nous, non, nous n'y passerions pas. Martin Huma dit alors à ses hommes, « Des gens de cette force prennent toutes les mesures possibles pour se protéger, pour se garantir, et ont dû prévoir une journée comme celle-ci et se préparer. Je vous affirme que ce n'est pas pour rien que cette porte-là s'est fermée tout à coup mécaniquement. Ce n'est pas non plus pour rien que cette issue existe et puisse si facilement être découverte. C'est vrai, chef. Vous comprenez, ces gens se sont dit que dans une heure de poursuite, lorsque la police, nous ou nos confrères, nous serions ici, dans ce cabinet, dans ce bureau directorial, prisonniers comme maintenant, car la porte se commande du dehors, nous chercherions une issue quelconque. Parfaitement. Et ayant trouvé celle par où le banquier, les employés ont pris la fuite, nous penserions pouvoir passer aussi par là. C'est tout naturel. En effet, alors ils ont certainement machiné aussi non seulement cette nouvelle porte, mais ce couloir lui-même. Martin Huma ajouta, « D'ailleurs, par acquis de conscience, pour voir si ces gens sont réellement aussi forts que nous le disons, nous allons nous en assurer immédiatement. » Il donna ses ordres. « Tenez, Prosper, ouvrez la porte, mais ne la dépassez pas. Le sol est creux, mon ami. » Mettez ce fauteuil dans la rainure au point qu'occupe le milieu de la porte. Puis, avec Philippe et un autre, jetez dans le couloir ses papiers, ses livres, de façon à faire à peu près le poids d'un ou deux hommes. Et attendons. Le fauteuil fut mis où l'indiquait Martin Huma. On jeta dans le couloir tout ce qui, dans le bureau du banquier, était d'un certain poids, gros livres, statues de bronze, pendules et autres objets. « Voilà, dit alors le roi des détectives, assez. » Alors, un bruit de déclenchement se fit entendre. Au bout du couloir sur lequel donnait cette porte, une sorte de rideau de fer tomba. Et de ce côté-ci, ce ne fut pas la porte qui se ferma, mais également un rideau de fer qui glissa du plafond, comme une guillotine, et écrasa à demi le fauteuil. En se baissant, Martin Huma et ses hommes purent voir en même temps le plancher du couloir vaciller, puis tout ce qu'il portait tout à coup glissa et disparut dans une fosse profonde et noire. « Voilà, mes chers amis, fit alors Martin Huma, vous seriez tombés dans quelque trou des catacombes de Paris, car les catacombes poussent jusqu'ici leurs ramifications. » Instinctivement, les hommes tressaillirent. « Oui, poursuivit Martin Huma, ces hommes sont puissamment organisés. Leur machinerie est parfaite, comme celle d'un grand théâtre. Ici, le déclenchement est calculé pour fonctionner automatiquement sous le poids d'un homme. C'est très bien.
Merci, chef de la leçon, dit Prosper.
Bien, reprit le roi des détectives. Maintenant, filons par ici.
Par la croisée?
Parfaitement. Et les barreaux de fer?
Ils sont aussi machinés, mais à notre profit, cette fois.
Martin Numa revint à la croisée, souleva la grille, fit passer ses hommes, et lui-même s'engagea après eux sur le boulevard Saint-Michel. Ils eurent le temps de traverser le trottoir avant que l'éveil fût donné aux badauds, aux étudiants, aux gens qui, à cette heure, montaient ou descendaient le boulevard Saint-Michel. Les agents, promptement, se dispersèrent sur le boulevard, se perdirent dans la foule, mais tout en se tenant à portée pour accourir, revenir au premier signal. Quant au chef, il se précipita avec ses lieutenants dans son auto qui stationnait devant la porte de la fameuse banque de M. de Krapps. Comme il s'asseyait dans le fond de cette voiture à côté de Prosper, tout à coup, Martin Numa pâlit, eut un soubresaut et s'écroula sans connaissance. Prosper poussa un cri.
« Chef, qu'avez-vous, chef? Vous êtes blessé ?»
Alors il vit que le sang qui couvrait Martin Numa ne provenait pas seulement d'éclaboussures de la bataille ou des écorchures qu'il avait pu recevoir au cours du combat. Il aperçut une longue traînée sanguinolente, découvrit la trace du coup de poignard hindou et avec terreur s'écria
« Ah! Quel malheur! Quelle blessure! Cette fois, pourrons-nous le sauver ?»